instance, this is the sort of thing that possibly happens.
Le front et Muriel. Je présente rapidement les intervenants. Hilaria Bousson, éditrice chez Delive et Apollodi, en Italie. Éric Azan a fondé et dirige les éditions La Fabrique. Et Nicolas Gorgui a fondé et éditeur aux éditions Libertalia. Ils vont parler chacun une vingtaine de minutes, puis on fera le tour de parole et l'échange avec la salle. Éric,
je commence. Le titre de cette séance, c'est le front éditorial. Alors, c'est une métaphore militaire. Et pour aller dans le même sens, je commencerai en disant que nous menons, étant pas seulement La Fabrique, mais l'ensemble des maisons d'édition amies, dont vous avez ici et là de brillants représentants. Donc, nous, les éditeurs, nous menons une guerre de tranchées, une guerre défensive, une guerre où nous critiquons, nous condamnons les initiatives de l'ennemi, ce qu'ils font avec la justice, la police, l'antiterrorisme, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si on prenait tous nos livres de toutes ces maisons et qu'on les collait bout à bout, on aurait un papyrus qui permettrait peut-être d'aller jusque dans la Lune. Et là-dessus, il y aurait une analyse critique de l'ordre existant qui montrerait combien cet ordre est injuste, combien ceux qui le font tourner, cet ordre, sont méchants, sont hypocrites, sont corrompus. Bref, tout ça compose un petit enfer avec la conclusion plus ou moins implicite qu'il faut en sortir. Sauf que on ne sait pas où est la sortie. Les portes, les pistes, les chemins pour en sortir ne sont jamais décrits de façon précise. C'est une incitation vague. Or, pourtant, nous savons confusément que si le peuple ne se soulève pas, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qu'il est opprimé. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas qui l'opprime. Il le sait parfaitement, mieux que nous, parce que cette oppression, il la vit tous les jours. S'il ne se soulève pas, s'il supporte l'oppression, bon, avec des remous de temps en temps, enfin, dans l'ensemble, on peut dire que depuis un bon moment, il supporte l'oppression. S'il la supporte, c'est parce qu'il n'a pas de perspective crédible. Et aussi, ça va dans le même sens, et aussi parce qu'il est soumis à un discours récurrent que nous avons laissé, nous les éditeurs, que nous avons laissé devenir dominant, un discours qui dit, je simplifie un peu, les révolutions se terminent toujours en désastre. Soit qu'elles soient massacrées, bon, alors c'est de Spartacus à la Commune de Paris et aux Spartakistes d'ailleurs, de Spartacus aux Spartakistes, une longue histoire de massacre, soit qu'elle soit victorieuse et à ce moment-là, au bout d'un moment, eh ben, ça dégénère. C'est bien connu, 1789, ça mène à la guillotine, la terreur et pour finir, la domination, la dictature napoléonienne. 1917, c'est Lénine-Staline-Goulag. Le maoïsme, c'est les camps de redressement et les grandes famines. Bref, la révolution, c'est une catastrophe. Par conséquent, il vaut mieux rester tranquille. C'est un des discours anesthésiants les plus efficaces. Alors, face à ça, nous, les éditeurs, on ne peut lutter que par nos livres. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est pas tout à fait rien, quand même, à condition que ces livres soient des livres offensifs et pas d'éternelles versions de l'état des lieux. Alors, faire écrire et publier des livres offensifs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Si je regarde d'un œil critique le catalogue de La Fabrique, ça doit faire à peu près 200 titres, je n'ai pas compté, mais c'est à peu près ça, je vois un livre qui répond clairement à ce critère. Ce livre, il s'intitule « Un état commun entre le Jourdain et la mer » et il est écrit par Eyal Sivan. Bon, il y a mon nom sur la couverture, mais j'étais le porte-plume. Toutes les idées, tout vient de Sivan. Eyal Sivan est un réalisateur de documentaires qui a fait de nombreux films, qui a tourné de nombreux films en Palestine et en Israël et sur la mythique frontière entre les deux. C'est le fameux film qui s'appelle Route 181. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Donc, au cours de son travail, de sa vie et de son travail, il a acquis sur cette question de la Palestine et d'une juste paix dans cette région, il a acquis une connaissance en profondeur tout à fait extraordinaire. Et son livre, ce livre, notre livre, a eu, en tant que livre offensif, je trouve, un grand succès. Il a tourné dans toute la France. Il a été l'occasion de débats, de foule inattendue. Et je dirais que là où il a eu un succès réel, c'est que je suis à peu près sûr, qu'il a changé, il a fait changer d'avis, changer d'opinion, une grande partie, des centaines de supporters de la cause palestinienne en France et de partisans d'une paix juste au Proche-Orient. Vous me direz, c'est pas le triomphe. Netanyahou est toujours là. Bien, ce livre n'a pas renversé la tendance là-bas. Je pense que la France est un pays important dans cette affaire et que faire changer d'avis énormément de monde qui sont des supporters de la cause palestinienne, eh bien, c'est un grand coup. Alors, ce que je voudrais dire, et je finirai comme ça, c'est qu'il faudrait, il faudrait trouver des auteurs tels que Eyal Sivan. C'est-à-dire des gens qui ne soient pas, j'emploie le mot de gens qui est vague, je l'emploie exprès, des gens qui soient pas des universitaires, pas des experts, pas des savants, des gens simplement qui, par leur existence, par leur expérience personnelle, par la vie qu'ils ont menée, ont acquis sur une question un savoir profond et réel qu'ils seraient capables de nous communiquer par le livre. Même comme lecteur, moi j'aimerais bien, là maintenant, cet automne, lire des livres, trouver des livres à lire sur des tas de questions que je me pose, auxquelles je n'ai aucun début de réponse, je ne sais pas. On dit, il faut en finir avec la prison. On serait tous d'accord là-dessus. Mais c'est quoi en finir avec la prison? C'est ouvrir grand les portes et laisser sortir tous ceux qui n'ont rien à y faire, qui sont certainement la très grande majorité, plus les violeurs de petites filles, les assassins de vieilles dames. En finir avec la prison, c'est sûrement quelque chose à faire, mais encore faut-il que quelqu'un nous explique comment il faut faire. Pareil pour comment il faut faire pour arrêter demain le nucléaire dans un pays dont l'électricité est aux deux tiers nucléaire. Comment faire pour arrêter le nucléaire sans se retrouver dans le noir? Comment faire pour sortir de l'économie? On nous dit sortir de l'économie. C'est un programme qui me semble très louable, et en effet. Mais sortir de l'économie, si on le dit comme ça, pour moi, ça résonne, ça n'a aucun sens. Donc ce sont des livres comme ça dont j'aimerais voir le nombre fleurir sur les tables des librairies. À la place de ce qu'on va avoir cet automne, on peut près dire qu'on va avoir des livres sur des jérémiades, sur les ordonnances, sur l'aide au logement et les emplois aidés. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci de votre attention.
Merci.
Donc c'est pas facile de réagir et de poursuivre après l'intervention d'Éric. Sur la question de la prison et des textes d'intervention, il me semble qu'il y a eu quelques très très bons livres dans le passé. Il y en a eu un d'Alain Brossa publié aux éditions La Fabrique.
Mais il ne donne aucune piste.
Il y en a eu un autre publié par les ateliers de création libertaire à Lyon au début des années 90. C'est une brochure qui s'intitule, et c'est toujours une brochure, puisqu'elle est encore disponible, qui s'intitule « Déviance en société libertaire ». Ça aborde la question du traitement des déviances dans une société libertaire qui existe ou qui existerait. Parmi ceux qui ont donné des réponses, qui ont essayé de fournir des réponses, des pistes, il y a notamment... dans les co-auteurs, Jacques Lesage de La Haye, qui est l'animateur de l'émission Ras les murs sur Radio Libertaire et qui réfléchit à la prison depuis 40 ans après l'avoir éprouvée dans sa chair pendant quelques années. Sur la prison, il y avait également un texte publié aux éditions L'Insomniaque en 2000, 765 raisons d'en finir avec la prison, et tout ça, ça esquisse des pistes. Et je m'éloigne de l'édition, mais d'une façon générale, en prison, effectivement, il y a 90% des gens qui ne devraient absolument pas y être. Et pour les 10 derniers pourcents, bien Jacques Lesage de La Haye ou d'autres ont réfléchi à une occupation, à un mode de réinsertion. Mais tout ça, ça coûte très cher. Il est évidemment beaucoup plus onéreux, dispendieux de traiter, entre guillemets, la déviance que de réprimer. Et puis réprimer, ça s'inscrit dans l'air du temps au niveau du fonctionnement de nos sociétés. Alors moi, je voulais vous parler un peu de livres, d'éditions. Et ça prolonge ce qu'a dit Éric. Je voudrais vous parler d'édition de 1917 à nos jours, à très grands traits, faire un bref panorama des livres du livre critique. 1917-2017, c'est un peu l'intitulé de ce colloque Penser l'émancipation. En 1917, Marcel Asfeld, je vais parler principalement d'édition française, ce sera à nos camarades le loisir de parler de l'édition italienne. Mais en 1917, Marcel Asfeld, qui est un ouvrier, constitue une maison d'édition, novembre 1917, qui s'intitule La Librairie du Travail. Marcel Asfeld s'appuie sur un mouvement idéologique, sur un groupe de personnes issues de la vie ouvrière, donc les syndicalistes révolutionnaires, de la CGT principalement, également pacifistes pendant la Première Guerre mondiale. On retrouve là Alfred Rosmer, on retrouve là Pierre Monat, on retrouve là Marcel Martinet. Voilà un exemple d'un livre de la Librairie du Travail. Ça se veut, ça pose pas mal de questions. D'abord, sur la couverture, on lit « La vie enseigne, le livre précise ». Donc le rôle des maisons d'édition, c'est absolument pas de constituer une avant-garde, c'est d'essayer de faire du travail d'éducation populaire, d'accompagner des mouvements. Je suis pas sûr qu'on puisse, seul, dans notre bulle, dans nos mondes, décider de l'orientation du monde de demain. Dans les faits, ça ne fonctionne pas. La Librairie du Travail, elle s'appuie donc sur un mouvement révolutionnaire né au début du XXe siècle, le syndicalisme révolutionnaire, et elle prolonge son activité avec la naissance du Parti communiste. Le vœu de Martinet, c'est de donner à lire, c'est de faire connaître les révolutions du passé, c'est de faire connaître les théories du présent, en 1917-1920. Lui a édité à peu près 150 livres pendant une vingtaine d'années, de 1917 à 1939. Le plus fort de son activité, c'est la période des années 20. Parmi les titres qu'on retrouve à son catalogue, il y a par exemple « La Commune de 1871 » du professeur Maurice Lacoste, qui était militant communiste et qui signe sous le pseudonyme de Thalès. Ça, c'est un livre qu'on retrouve ensuite aux éditions Spartacus. Parmi les livres qu'on retrouve également au catalogue, « L'an 1 de la Révolution russe », Victor Serge, on l'a à peu près tous à nos catalogues, ou alors on est sur le point de l'avoir. Parmi ces livres-là également, « L'Issagaray, l'histoire de la Commune de 1871 ». Donc ce que je voudrais dire en vous montrant des livres et en parlant un peu d'édition, c'est que, premièrement, on ne peut pas se substituer aux masses. En revanche, on peut faire un travail d'éducation populaire. D'autres l'ont fait avant nous. La librairie du travail, elle diffuse ses exemplaires à quelques milliers d'exemplaires, 3 000, 5 000. Quand elle fait des brochures, elle a une diffusion qui est plus importante, 10 000. Ce qui est intéressant, c'est quasiment le postulat de départ. Je vous lis la toute fin du livre. « Cet ouvrage, le 9e de notre collection Histoire et éducation prolétarienne, a été tiré à 3 000 exemplaires par la coopérative ouvrière d'édition Librairie du Travail et achevé d'imprimer par la co-typographie Imprimerie ouvrière. » On sait où on est. Il y avait vraiment un sentiment, une vraie conscience de classe. Cette conscience de classe, peut-être qu'elle s'est un peu perdue chez une partie des éditeurs, et des éditeurs en particulier critiques. Marcel Martinet, donc, se retrouve très rapidement en marge de la SFIO, parce qu'il adhère au PC, puis exclu du PC, puisqu'il soutient Victor Serge et dénonce la bolchevisation. Finalement, les bouquins de la librairie du travail qu'on trouvait généralement dans les congrès de la CGT, de la CGTU, au congrès de la SFIC, enfin du PC et au congrès de la SFIO, sont peu à peu blacklistés. À l'époque, les livres dit d'intervention où le livre critique n'a pas de visibilité dans la librairie entre guillemets bourgeoise. Donc Marcel Martinet, au bout de quelques années, au bout de 22 ans, c'est pas rien, Marcel Asfeld, au bout de 22 ans, renonce et continue son activité en tant que correcteur d'imprimerie. Le métier de correcteur, c'est un métier qu'on retrouve chez une grande partie des militants révolutionnaires et des penseurs, des intellectuels, des éditeurs révolutionnaires du siècle XX. Oui. Donc, Marcel Martinet, j'ai confondu Martinet et Asfeld, désolé, il a été réédité par les éditions Agone, et lui, il a pensé le concept de culture prolétarienne. Donc, culture prolétarienne, diffusion prolétarienne, mais tout ça se heurte à un certain dogmatisme des uns et des autres et se heurte à l'impératif financier. C'est quelque chose qu'on retrouve toujours. Et quand on parle d'édition critique, quelle qu'elle soit et quelle que soit la période, se pose la question de la diffusion et de la distribution. Comment faire vivre le livre critique dans une société qui n'est pas une société communiste telle qu'on la rêve? Eh bien, d'autres, à la suite d'Asfeld, vont prolonger le combat éditorial. Je m'arrête sur quelques dates. J'ai parlé de 1917. J'évoque brièvement 36 jusqu'en 80 et même davantage. Je pense en particulier à René Lefeuvre. René Lefeuvre, maçon de son État, avait créé un journal au début des années 30, en 1933, le Voici, Masse. René Lefeuvre, c'est un prolétaire qui a lu et qui a intégré les idées luxembourgistes, les idées de Rosa Luxembourg. Il est lui aussi persuadé qu'il faut faire de la diffusion populaire et de l'éducation prolétarienne. Donc il reprend toute une partie du fond de la librairie du travail de Marcel Asfeld et va publier de très nombreux titres avec Spartacus. Spartacus sera une maison d'édition puissante à la fin des années 30, puisqu'il rejoint, lui, en tant que militant, la gauche révolutionnaire de la SFIO, donc l'aile pivertiste. Ce sera également une maison très très puissante à partir de 1968, c'est le grand renouveau de Spartacus, jusqu'aux années 84-88, et c'est une maison d'édition qui continue son activité aujourd'hui. Cette maison, elle a publié tout ce qui existe de communistes, comme communistes critiques, anti-autoritaires. Elle a publié Autoroule, Korsch, elle s'est intéressée à certains libertaires comme Rodolphe Rocker. C'était la maison d'édition qui accueillait une partie des textes de Daniel Guérin. Et Daniel Guérin, si on le suit, eh bien, Il a été publié par la Librairie du Travail avec La Peste Brune en 1933, premier tirage, 10 000 exemplaires. Puis il a été publié par Spartacus, il a été publié par Maspero, il a été publié par Libertalia, il a été publié par La Découverte, il a été publié par La Fabrique. Donc on peut aussi suivre les auteurs, suivre leur cheminement, et si on suit le cheminement des auteurs, il y en a un qui est quand même particulièrement intéressant, c'est Victor Serge. Les droits d'auteur de Victor Serge servaient à financer une revue éditée par René Lefebvre. Je parle sous le contrôle de Daniel Guerrier, qui est présent à la salle et qui pourra revenir après sur l'histoire de Spartacus, puisque lui, il y a pleinement participé. Après Spartacus, je voudrais vous parler très brièvement d'une maison d'édition qu'on connaît tous et qui est sensiblement différente, la maison d'édition de François Maspero. Donc François Maspero, en 1957, ouvre une librairie dans le Quartier Latin, La Joie de lire. En 1959, crée sa maison d'édition. Son premier livre, c'est un livre de Pietro Nenni. Et il va être actif jusqu'en 1982. De 1959 à 1982, ça fait quand même 23 ans. 23 ans, il publie 1350 livres. 1350 livres diffusés. Et là, c'est là que tout change, à hauteur de 10 millions d'exemplaires. Nous, quand je dis nous, c'est les éditeurs critiques d'aujourd'hui, quand on arrive à diffuser plusieurs milliers d'exemplaires d'un titre, on est ravi. Au niveau de Maspero, on est dans un contexte politique un peu différent, donc les tirages étaient parfois très importants, et tous les tirages étaient indiqués, ce qui est intéressant. Je vous invite à passer sur la table de la librairie Envie de lire, et donc la librairie du colloque Pensée Émancipation, on trouve des livres comme celui-là, avec à chaque fois mention du tirage. Premier tirage, 10 000 exemplaires, le troisième trimestre 1970. Donc Maspero, c'est vraiment une sorte d'homme orchestre, c'est une maison d'édition qui rassemble beaucoup de monde, c'est une maison d'édition qui touche à tout. On parle beaucoup de sciences humaines, c'était la principale maison d'édition de sciences humaines inscrite dans le mouvement critique au cours des années 70, sans le moindre doute, mais c'est également une maison d'édition qui s'essayait à la littérature avec la collection Voix, à l'histoire ouvrière avec la collection Mémoire du Peuple. Et c'est une maison d'édition qui diffusait des revues, 10 revues. Et la revue, c'est aussi un élément qu'on retrouve à travers toute l'histoire de l'édition militante, de l'édition critique au XXe siècle. Je vous ai parlé de Spartacus et de Mas en évoquant les éditions Spartacus. La révolution prolétarienne liée pendant un temps, du moins, à Marcel Asfeld, je l'ai feuilleté en prenant le métro. J'étais surpris de voir que dans La Révolution prolétarienne, il y a une critique de Maurice Nadeau. Donc déjà, Maurice Nadeau, lui aussi franc-tireur de l'édition, écrivait dans les revues intellectuelles et ouvrières dans les années 30. Donc Maspero finit par céder sa maison d'édition en 1982 à François Gès, qui animait la collection La Découverte. Il a été battu dans une certaine mesure par la réappropriation prolétarienne, le vol. Concrètement, il y a eu tellement de vols chez Maspero, notamment dans sa librairie, il y a eu tellement de publications et tellement de faillites qu'il a fini de guerre lasse par renoncer, passer la main. C'est aussi une période, 1982, qui nous confronte à un certain socialisme, et c'est une grande période de désillusion, de retournement de veste, d'enrichissement de ceux qui avaient prôné la révolution. Quand on étudie à la loupe le catalogue Maspero, on est surpris d'y retrouver des textes de Bernard-Henri Lévy, par exemple. Un dernier clin d'œil à une maison d'édition plus contemporaine, j'ai donc évoqué 17, 36, 68 et ses prolongements, l'une des grandes émotions de l'histoire, l'un des grands moments de manifestation, c'est évidemment 1995. Autour de 1995 se constitue une autre maison d'édition, les éditions L'Insomniaque, toujours active. Et là, c'est une maison issue en droite ligne de l'autonomie et d'un certain post-situationnisme. Les livres sont de belles factures, vendus à tout petit prix, sans droit d'auteur. Il n'y avait pas de droit d'auteur à la librairie du travail, il n'y a pas non plus de droit d'auteur chez L'Insomniaque. Ça pose la question de la rémunération du travail intellectuel. Mais cette maison poursuit son activité aujourd'hui. Elle a publié des textes très importants, comme « Beau comme une prison qui brûle », qui est devenu quasiment un slogan. C'est sur une émeute populaire à Londres à la fin du 18e. Mais Ce slogan ressurgit à chaque fois qu'on évoque la fin des prisons. L'Insomniac, c'est aussi une maison d'édition qui a publié des détenus anarchistes comme Alexandre Jacob, des auteurs comme Traven. Donc toutes ces maisons d'édition, toutes celles qu'on a abordées, toutes celles que j'ai évoquées brièvement, en fait, sont animées par un objectif, l'éducation populaire. Et elles sont contraintes par les questions financières. Ce qu'être éditeur critique, c'est s'exposer à certaines désillusions d'un point de vue politique, mais c'est aussi s'exposer à une grande précarité tout au long de sa vie. Alors certains ont choisi un autre chemin. Parmi les grands éditeurs qui ont tâché de porter une pensée un peu différente ou qui ont été très impliqués dans des mouvements sociaux et politiques, on peut citer Jérôme Lindon avec les éditions de Minuit au moment de la guerre d'Algérie. Très clairement, de très très nombreux livres sont saisis et les éditions de Minuit font preuve d'un grand courage. On peut citer Miguel Abinsour, décédé depuis quelques mois, mais qui lui a été quelqu'un d'important au niveau de la théorie critique, au niveau de la traduction, traduction de philosophie politique en particulier. Mais Miguel Abinsour n'a quasiment jamais eu une maison d'édition à lui. Il vient du courant socialisme ou barbarie et il a publié principalement chez Payot dans une magnifique collection qui s'appelle Critique de la politique. On peut évoquer, j'en ai dit un mot tout à l'heure, Maurice Nadeau, qui lui a eu sa maison d'édition. Maurice Nadeau décédé en 2013 à l'âge de 101 ou 102 ans. Maurice Nadeau, spécialiste du surréalisme, amoureux de la littérature qui a publié Gombrowicz, Malcolm Lowry, entre autres, a également été un passeur des textes révolutionnaires de Trotsky, des textes liant littérature et révolution. Il a été un passeur de nombreux dissidents libertaires et communistes critiques des années 30. Et lui a œuvré pour le Grand Capital dans une certaine mesure, puisqu'il a travaillé pour Julliard, pour De Noël et d'autres. Donc que dire, pour finir, 100 ans d'édition critique, 100 ans d'aspiration à l'émancipation, oui, mais tout ça ne peut pas se passer par la simple librairie de premier niveau. Ça passe par là, mais pas simplement. Ça passe aussi par du travail dans les collectifs, dans les organisations ouvrières, dans les structures militantes, dans les lieux militants. Un dernier mot sur l'édition communiste, qui était un monde à part entière. En France, par exemple, dès 1920, se structure des maisons d'édition communistes. Elles publient énormément. Elles font un véritable travail de propagande. John Reed, 10 jours qui ébranlèrent le monde. Donc là, on célèbre le centenaire de la Révolution russe. C'est le best-seller des éditions communistes à partir des années 20, à partir de 1927, date de sa traduction. Mais ce qui est parfois surprenant avec l'édition militante, l'édition partidaire, c'est que les grands intellectuels communistes comme Aragon publiaient chez Gallimard. En revanche, le Parti communiste, par exemple, avait une assise suffisamment importante et suffisamment forte pour avoir son propre réseau de diffusion, son propre groupe d'édition, le groupe La Renaissance, ses propres librairies, les librairies du groupe La Renaissance. Elles ont été jusqu'à 50 à la fin des années 70. Donc émancipation, oui, avant-garde, non, mais menu problème de trésorerie, menu problème logistique et retour à l'argent, malheureusement, pour la plupart des éditeurs. Le groupe communiste fait faillite en 1989, accusant 40 millions de francs de dettes à l'époque. Donc sans le grand frère soviétique, rien n'aurait été possible. Voilà.
Je vais. Bah, bonjour et merci pour cette invitation au colloque et en particulier à cet atelier. En fait, les titres que j'avais donnés, c'est La règle de l'art, coopération, entreprise de soi et refus du travail dans l'industrie culturelle. Et je vais, et en fait, j'ai préparé une intervention qui respecte ce titre, donc qui est un cadre un peu plus large par rapport à la spécifique question de l'édition et du monde éditorial. Donc, je pourrais en fait commencer et finir cet exposé en décrivant dans les détails les conditions de résistance sur un front éditorial, que, comme a dit Eric, c'est une métaphore de guerre, qui voit sur un côté une maison d'édition indépendante dont les projets culturels est pleinement inscrit dans le prolongement d'une tradition critique qui est celle du marxisme hérétique italien que nous connaissons comme opéraïsme et post-opéraïsme. Et je parle là de la maison d'édition de Riva Prodi pour laquelle je travaille, et qui est par ailleurs directement issue des évolutions théoriques et pratiques de l'autonomie ouvrière italienne. Et sur l'autre côté, les contextes d'une production culturelle qui coïncide avec l'expérimentation d'un libéralisme très avancé en Italie, dont les traits très génériques sont bon, gratuité du travail employé dans les secteurs culturels. Et j'entends par là tout travail qui utilise des outils comme la faculté des paroles écrite et orale, la capacité des relations, de tisser des relations, donc des facultés de produire des affections. Un trait. Ensuite, sérialisation et prolétarisation de ces mêmes travails dans les contextes d'une généralisation du travail qui se fait par l'intellect, dont l'écrivain Luciano Bianciardi avait déjà très bien vu les aspects d'ambivalence et de subordination dans son livre qui, je crois, n'a jamais été traduit en français, qui est Il lavoro culturale, le travail culturel, qui est un livre de 1957. Ensuite, management de soi, de l'entreprise subjective néolibérale. Bon, une condition que des auteurs comme Pierre Dardot, Christian Laval ou Maurizio Lazzarato ont très bien écrit. Et une grille à l'intérieur de laquelle s'est fait la circulation et la diffusion des produits de ce travail qui opère en forme rentière. De la part des structures qui occupent les positions d'accès au marché, les distributeurs par exemple, et cela vaut aussi bien pour l'édition que pour les cinémas et pas seulement. Et une forte rigidité de cette même grille qui confirme encore une fois que le néolibéralisme procède avec une normativité très soutenue et qui limite énormément toute mobilité du travail dans un sens horizontal et vertical, mais qui ne procède guère, malgré ces déclarations, par le levier de la concurrence. Et donc ensuite, externalisation et fragmentation de la force travail qui prend la forme de l'entreprise, du travail autonome et de ce qu'en Italie, on appelle le peuple des TVA, la population des TVA, il popolo delle partite IVA. Donc, les conditions descriptives initiales de ce front seraient en gros celles-ci, avec la précision suivante, qui est qu'il s'agit là d'une scène qui indique un moment de faiblesse dans les luttes entre travail vivant et capital. Mais il s'agit tout de même du résultat de la fuite du travail vivant, des conditions de son exploitation à l'intérieur de l'usine qui s'est consommée tout au long des années 70. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit donc de la continuelle érosion des acquis des luttes contre le travail salarié des décennies précédentes. Sur ces fronts, nous aurions donc les tentatives d'organisation du travail de ce qu'on appelle le cinquième État, qui s'est fait sur des revendications contractuelles qui, en gros, suivent deux axes, entre eux relativement contradictoires. D'un côté, reconnaître que le travail autonome est de fait un travail salarié subordonné. De l'autre côté, protéger la liberté et les salaires du travail autonome par le recours au statut professionnel des professions libérales, sur les modèles des statuts professionnels des avocats, des architectes. À l'intérieur du soi-disant cinquième État, l'oscillation et parfois même l'imbrication entre ces deux pôles est très forte. ce qui nous ramène à la description suivante de Luciano Bianciardi, donc 1957, que je vais traduire approximativement. Le maître par lequel on évalue les travaux de l'ouvrier et les travaux du fermier, c'est un maître quantitatif. Si l'usine produit tant de pièces, si le champ est rentable. Avec nos métiers, c'est différent. Il n'y a pas de maître d'évaluation quantitative. Comment peut-on mesurer l'habilité d'un prêtre, d'un attaché de presse, d'un copywriter? Ceux-là, ils ne produisent rien, ni ils transforment. Ils n'appartiennent pas au secteur primaire, ni au secondaire. Ils sont du tertiaire, voire du, je ne sais pas comment on dit en français, du quatrième, du
quaternaire.
Voilà, du quaternaire. Et le cinquième état dont je parlais tout à l'heure est une référence très précise à ces fragments de Bianciardi. Je reprends. Ils ne sont pas des outils de production et moins encore des courroies de transmission. Tout au plus, c'est du lubrifiant, pure vaseline. Comment évaluer le travail d'un prêtre, d'un attaché de presse, d'un copywriter? Comment calculer la quantité de foi, de désir, de sympathie que ceux-là auront réussi à faire émerger? Non, il n'y a pas d'autre maître sinon la capacité de chacun à flotter, à monter un peu plus en haut, bref, la capacité de chacun à devenir évêque. Citation finie. Ce qui explique déjà, il y a 60 ans, le régime de concurrence intersubjective spécifique des professions créatives que nous connaissons très bien et qui n'est simplement pas l'index d'une extrême fragmentation de la force de travail, mais aussi souvent d'une adhésion subjective à des paradigmes d'individuation qui reviennent parfois à redécouvrir des figures telle celle de l'artiste créateur, unique propriétaire de ses facultés de création et de ses outils de production, qui se heurte clairement avec les savoirs sociaux comme condition de toute production et avec les présupposés d'une dimension fortement relationnelle et affective de la production culturelle. Et ce qui nous jette d'un coup plutôt que long la ligne d'un front dont les frontières seraient nettes et évidentes sur la scène d'une traîtrise peuplée par des opportunistes et des cyniques de tout genre, par ailleurs revêtant chacun une forme juridique différente. Une entreprise individuelle, une entreprise plus classique avec un capital mais dont les employés agissent comme des associés, un simple travailleur précaire employant sa force travail, un entrepreneur agissant comme un camarade, un autre exerçant une profession libérale ou alors une coopérative prenant la forme de l'exploitation collective. Si par ailleurs on prend cette micro-scène et on la projette sur une échelle plus large, on s'aperçoit que dans la production culturelle, je parle de ça mais ça peut être valable beaucoup plus largement, on s'aperçoit donc qu'elle fonctionne pour les entreprises elles-mêmes où certaines se présentent comme des pôles de travail et de production et d'autres des pôles d'extraction avec des fonctions rentières. Cela arrive très fréquemment dans le monde de l'édition, de la production cinématographique, de la production alimentaire aussi, où la distribution et l'accès au marché contrôlés par la distribution, se configure comme une détermination des prix et des conditions de travail d'une filière entière. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans et je préfère donc regarder un peu plus de près la scène dans sa dimension microscopique. Et si on devait donc synthétiser dans un mot la disposition éthique du travail créatif contemporain, on pourrait facilement revenir à cette définition du lumpenprolétariat que Marx nous propose dans les 18 Brumaires, où on lit « escroc, voleur à la roulette, saltimbanque, escamoteur et pickpockets, joueur, macro, patron de bordel, portefeuille, écrivassier, joueur d'orgue de barbarie, chiffonnier, soulographe sordide, rémouleur, rétameur, mendiant. En un mot, toute cette masse errante, fluctuante et allant de ci de là que les Français appellent la bohème. » Citation finie. Et pourtant, cette classe des traîtres, que Marx appelle écume de toutes les classes de la société, était bien sur les barricades de 1848. Et l'alliance entre la bohème, entendue comme la forme de vie des classes créatives, telle qu'on reçoit ce terme tout au long du XXe siècle, et son alliance avec les classes dangereuses réfractaires à la disciplinarisation par le travail a été une vraie donnée. C'est alors à cette liaison et des liaisons qu'il faut peut-être regarder pour s'apercevoir que la bohème, comme classe des artistes, en faisant de son insubordination au travail salarié son propre privilège, a opéré une coupure, si l'on veut une traîtrise, vis-à-vis du reste des classes non laborieuses dont elle était issue. Ces passages, du point de vue littéraire, s'est fait assez rapidement entre la publication du feuilleton de Murger, d'Henri Murger, qui s'écrit entre 1847 et 1848, et la version qui est donnée dans les mélodrames lyriques de Puccini de 1895, dans lesquels s'évanouit toute ambivalence présente sur les statuts du travail créatif. Dans les feuilletons de Murger, le quatrain d'une poésie équivaut à un pli dans une jupe, la valeur d'un tableau et le poids de peinture qu'il contient. Dans les mélodrames de Puccini, s'évanouit toute ambivalence sur les statuts du travail créatif, et alors que ici, la collocation du travail créatif à l'intérieur de la division sociale du travail est encore très incertaine. Dans un moment, par ailleurs, où les œuvres d'art sont placées comme toute autre marchandise sur les marchés. Donc, ce qui est sûr, c'est que cette bohème partage avec les classes non laborieuses, je cite du feuilleton, « la haine pour la sueur du front ». Donc, que la bohème, dans son enclosure, dans son opération enclosure artistique, et plus tard accompagnée par la figure de l'intellectuel tout au long du XXe siècle, et revendiquer pour soi une non-mesure de son propre travail, un refus de la subordination et une liberté au nom de capacités subjectives concentrées dans un individu, cela est indéniable. Mais que cela soit fortement en crise, du moins depuis que l'auréole du poète Baudelaire est tombée dans la boue, donc pas mal de temps aussi. C'est pour cela qu'il faut peut-être regarder de plus près, comme d'ailleurs l'avait fait Henri Murger pour ces scènes de la vie de Bohème, de quoi elle est faite cette écume, qu'on pourrait nommer de plusieurs façons, oi poloi, pour une expression classique de la pensée grecque de Platon, multitude chez Spinoza, ou alors untorelli, comme disaient les maires du Parti communiste de Bologne, en parlant de façon méprisante des sujets protagonistes du mouvement de 77. Encore une fois, nous retrouvons donc les ambivalences indiquées et dans les feuilletons de Murger et dans les romans de Bianciardi, écrits 100 ans après. L'absence d'une mesure du travail de création nous rend aujourd'hui disponibles trois choix. Un travail qui peut être reconduit aux professions libérales, un travail unique fait par un sujet unique propriétaire de ses facultés créatives, de l'artiste à Steve Jobs, c'est la même continuité. On peut l'appeler artiste, entrepreneur de soi, d'ailleurs souvent les figures coïncident, ou alors c'est un travail salarié comme tout autre travail salarié. En fait, ce qui se déploie devant nous, c'est plutôt un mélange des trois. Si nous prenons par exemple les cas des traducteurs et des tentatives d'organisation du travail de traduction dans un syndicat comme ACTA en Italie, nous avons exactement ça. Donc la revendication d'une catégorie qui se veut une libre profession, qui d'un côté, mais qui de l'autre, à travers les droits d'auteur, se place à côté des auteurs et non pas des exécuteurs, mais en même temps exige une reconnaissance des droits sociaux liés au travail salarié. En fait, je crois que l'erreur, c'est surtout de ne pas assumer cette imbrication en tant que telle et de penser qu'il faut opérer un choix. mais surtout dans le fait de ne pas reconnaître cette scène pour ce qu'elle est, un mélange de tout ça, un mélange qui touche les individus eux-mêmes dans leur constitution éthique, parce que le travail d'un traducteur est en même temps un travail exécutif qui peut avoir une mesure et un travail d'intelligence des créations qui peut ne pas l'avoir, et qui a évidemment un savoir spécifique linguistique ou informatique qui peut être reconduit à celui d'un technicien. Donc si le cas du syndicat des traducteurs est intéressant, c'est justement parce qu'il est évident qu'il n'y a pas de statut du travail qui tienne, il n'y a pas de corporation artisanale ancienne à laquelle revenir, ni de noble tradition ouvrière. C'est la scène que nous avons devant nous, c'est l'écume de toutes les classes. Le front culturel est donc un front où chacun se retrouve en même temps sur plusieurs fronts de la division sociale du travail, qui nous place souvent plusieurs fois par jour, tant du côté de l'entrepreneur que du salarié. Nous pourrons ici introduire une autre ligne de fracture, par exemple, qui est celle des rapports hommes-femmes, et une autre ambivalence, celle du travail de soins accompli par les femmes. Donc cette ligne de fracture nous place dans la même journée, d'ailleurs, sur plusieurs fronts, tant du côté de l'exécuteur en série que de celui d'un travail artisanal de nouveau genre, par exemple. Le statut du savoir devient également très incertain, devenant un mélange entre savoir technique parfois très spécifique, savoir provenant des sciences humaines, par exemple, mais venant aussi de passion, des formations et d'affections personnelles, donc des savoirs d'amateurs. En fait, lors de sa conférence à Rome à C17, Jacques Rancière a décrit tout ça comme la scène des nouveaux ouvriers polytechniques. Et la question qu'il faudrait poser, à mon avis, est alors s'il n'y aurait pas quelque chose de l'ordre d'une nouvelle règle de l'art qui correspond à ce travail et à ce savoir, qui ne correspondent plus à aucun statut, et à ces ouvriers qui, toujours d'après Rancière, ressemblent souvent à des traducteurs. Donc une règle de l'improvisation, bon, c'est un paradoxe évidemment, qui n'a bien sûr rien à voir avec les rythmes de l'usine, ni avec le geste artisanal guidé par le bien de l'œuvre, ni non plus avec le geste créatif qui revendique pour lui tout seul une liberté qui est la liberté de fixer son prix au-delà de toute mesure. Une règle de la coopération qui s'est faite dans l'immanence de la pratique, qui définit quelque chose de l'ordre d'une résistance de la pratique en tant que telle, au-delà de tout statut professionnel, de toute revendication syndicale, très souvent au-delà des conditions de rémunération du travail aussi. On voit souvent les travaux gratuits dans le secteur de la culture, très diffusé en Italie, les paradigmes d'une exploitation extrême, d'une subordination qui, à la place d'un salaire, met par exemple un dispositif de reconnaissance. Effectivement, c'est indéniable, c'est aussi le cas. Mais je me demande si en tout ça, on ne puisse pas voir aussi autre chose du côté du sujet qui tient justement à un processus d'émancipation aussi, une obstination, un attachement à sa propre activité, à une pratique qu'on aime, qu'on désire, au-delà de tout salaire et de tout statut professionnel. Je me demande donc si les cadres dans lesquels se déroule cette nouvelle règle de l'art d'une coopération qui cherche son architecture et qui est peut-être fondée sur une architecture de la jouissance, pour utiliser une expression de Henri Lefebvre, si ces cadres n'étaient pas celui de la production de monde. Dans les projets culturels dans lesquels j'ai été engagée dans les dernières années, à partir de mon travail dans une maison d'édition indépendante, et je vais vous en donner une idée. par exemple, bon, l'organisation des festivals, des salons du livre auto-organisés, des salons du livre mixte, livres vignerons et autres producteurs de cinéma, ou alors avec des groupes de théâtre, des coopératives théâtrales qui font de la distribution cinématographique en travaillant avec des psychotiques, des producteurs d'aliments, des pépiniéristes ou des paysagistes, ou alors des expériences comme l'exposition Sensibile Comune qui a été faite l'année dernière lors de la conférence C17 à Rome, dont les creators étaient voilà, les collectifs de la revue Opera Viva, qui a d'ailleurs une collection de livres de la maison d'édition Deriva Prodi et aussi une revue en ligne. Voilà, dans toutes ces expériences, j'ai l'impression qu'un des, enjeux soit toujours celui de pratiques qui remettent fortement en discussion le statut que la sociologie du travail leur assigne, des savoirs hybrides qui interrogent les partages entre sciences sociales et techniques, de positions subjectives qui dépassent largement les positions socialement reconnaissables, dont les salaires, ou plutôt le revenu, est une des variables, mais souvent indépendante de la pratique qui engage les sujets. Je dirais donc qu'il s'agit là de pratiques, et je vais emprunter une expression à Ernesto De Martino, de pratiques de rétablissement de la présence qui touchent directement à la production du monde, aux désirs qui y sont engagés, à la recherche de règles pour cette coopération qui se mesure avec un autre maître de la valeur. Donc, nous sommes là dans les domaines d'un art, bon, qui est un art du cirque, un art entièrement à imaginer, à construire, mais qui est une forme de... un art contre-managérial des formes de vie, contre-managérial, je veux dire, dans le sens où le management de soi est l'art du néolibéralisme dans lequel nous vivons. Et donc un art qui, en acceptant les défis de revoir les partages des savoirs, les partages sociaux des individualités, les partages du sensible aussi dans un certain sens, n'est peut-être pas la garantie de ramener la bohème sur les barricades, mais qui va peut-être nous aider à définir une nouvelle scène de la relation entre ces nouveaux ouvriers polytechniques. Et c'est donc dans ça qu'à l'heure actuelle, nous sommes engagés. Voilà, merci.
La France est peut-être le pays où le marxisme traditionnel, en dehors des pays qui étaient sous la direction directe, qui étaient les pays communistes, en dehors de ces pays, je pense que c'est là où le marxisme de caserne a fait le plus de dégâts, les plus graves dégâts, plus qu'en Italie, et plus que partout ailleurs. Et je crois qu'on n'est pas guéri de ça encore, et qu'aujourd'hui, il y a encore une certaine réticence à se dire marxiste, communiste, tout ça, on vous regarde, pour commencer, d'un drôle d'air. Après, ça peut s'arranger. Mais enfin, on est quand même regardé d'un drôle d'air parce qu'il y a un passé français spécifique, je crois. Il faut voir ce que c'était que l'édition communiste dans ma jeunesse. Les éditions sociales, c'était vraiment une blague, quoi. Mais il y avait un truc qui était bien, c'était les éditions de Moscou. Parce que les éditions de Moscou, en français, avant le livre de poche, tu te souviens de l'époque avant le livre de poche. Le livre de poche, c'est 53. Hein. Quand on était au lycée, eh bien, pour trouver le Père Goriot pas cher, ben, il fallait aller rue Racine, où on trouvait les éditions de Moscou. Alors, c'était imprimé sur un papier qui n'était pas formidable, Mais les éditions, c'était bien édité. Je veux dire par là l'appareil critique, les notes, ça, c'était sérieux. Puis on avait ça pour rien.
Je crois qu'Éric a écrit un texte dans un bouquin hommage à Maspero.
C'était un catalogue d'une expo Maspero qui s'est tenue à Lyon. Et il m'avait demandé un... Voilà, le gars qui faisait le catalogue, qui s'appelle La Fosse aux Ours, la maison d'édition qui a édité ce catalogue, qui est une maison lyonnaise. Il m'avait demandé... Alors, j'ai fait un petit texte, oui.
Et tu parles d'université populaire.
Ah, pour moi c'est sûr, c'était une université populaire. De toute une génération. Moi, j'étais un petit peu en retard de lecture, parce que, comme j'étais chirurgien avant, les chirurgiens, ça lit pas beaucoup. Ça lit même pas du tout. Donc j'avais du retard, mais j'ai compensé ce retard en y allant quasiment 3 fois par semaine. Et c'est vrai qu'on rencontrait toujours des amis et qu'il y avait une joie dans cette librairie communicative. Les vendeuses étaient joyeuses. Et on était contents d'être là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'était vraiment un endroit exceptionnel, un modèle inatteignable. Ça fermait à minuit. Moi, ce que je vois, pardon, je te réponds, ce que je vois de négatif réellement dans l'édition actuelle, c'est son côté tourné vers le passé. Et bon, à La Fabrique, on publie beaucoup de livres d'histoire et je ne me mets pas au-dessus de cette tendance. J'y suis moi aussi. Pour ma part, très personnellement, je suis plus historien que politique ou... Mais je trouve que cette édition dont nous parlons là maintenant, à la différence des éditions de Maspero, qui n'étaient pas du tout tournées vers le passé, qui étaient tournées vers le jour, le lendemain, la semaine d'après, qui regardaient véritablement vers l'avenir avec un côté complètement offensif, là-dessus, de ce point de vue-là, on est des gros nuls. On va terminer là-dessus.
Non, mais moi, je pourrais modérer sensiblement ce propos.
Oui, 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 parce que terminer en disant...
Moi qui collectionne les petits Maspero, il m'en manque encore une trentaine sur à peu près 280, je constate qu'il n'y a plus rien de lisible là-dedans à 50 titres près. Donc, être tourné vers le passé et publier de l'histoire, donc rééditer... ce que Maspero avait fait à la fin des années 70 avec Rancière, donc c'est un de vos prochains titres, je crois, sur Goni. C'est une super idée, et puis ça constitue un fond. Les maisons d'édition ont besoin d'un fond qui tourne et qui ne vieillisse pas trop vite. Quand on publie un livre sur l'histoire du premier Parti communiste français, enfin les premières années du Parti communiste, on sait que dans 5 ans, ce sera encore lisible. En revanche, un livre d'intervention d'actualité, dans 1 an, il est bon à jeter.
Si on n'a pas... Non, non.
Non ?
Je ne crois pas.
Moi, je crois.
Je crois que le 18 primaire de Louis Bonaparte était un livre d'actualité. Et il a eu quand même une bonne carrière, non?
bon tact. Mais nous, par exemple, on publie, là, en ce moment, on finit la maquette d'un livre coédité avec la CGT du Havre. Donc c'est un livre résolument tourné vers le quotidien social, ouvrier, revendicatif et rebelle du Havre. Bon, dans 3-4 ans, je pense que ce livre sera un peu daté.
Pas grave.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais à côté de ça, pour que la maison d'édition poursuive son activité, il faut des livres sur la Commune de Paris qui intéresseront tout le temps du monde et qui seront encore lisibles dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, si on a fait un tirage très important. Et là, une fois de plus, Spartacus faisait des tirages colossaux puisque Spartacus était diffusé à un moment par les NMPP, vous imaginez? On pouvait être abonné, on recevait... En fait, Spartacus, les livres de Spartacus étaient en kiosque grâce à la diffusion des nouvelles messageries de la presse parisienne. Donc, cela signifie des retours de 80% et des stocks pour 100 ans. Donc, il vaut mieux que ce ne soit pas un livre sur un événement... trop daté, voilà.